7h18, Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour.
Alors, Sinorama, l'autorité des marchés financiers qui enquête sur le processus de collecte de fonds auprès des investisseurs.
Oui, parce qu'on n'est pas inscrit auprès de l'AMF, mais on était inscrit auprès de la Security and Exchange Commission. Donc, on est allé aux États-Unis. Écoutez, c'est beaucoup d'investisseurs étrangers. Donc, on s'est dit, si les investisseurs sont fortunés au Canada, où ils travaillent pour l'entreprise, on a le droit de ne pas passer par les règles de l'AMF. Mais l'AMF a ouvert une enquête juste pour s'assurer qu'il y a une collaboration totale des propriétaires actuels. En fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y a ça, l'enquête de l'AMF qui est liée aux investissements, qui n'a pas de lien avec la capacité de l'entreprise à gérer des liquidités. Mais il y a aussi l'interprétation d'hier de 11 millions de besoins de fonds dans les prochains mois. Et là, on n'a pas de réponse très claire, sauf que de la collaboration de tout le monde. On va attendre.
Paul, attends, je vais te lire le communiqué là, de la compagnie. Là. Ça dit que, sur le site web, là, la situation de vacances Sinorama est saine et permettra à l'entreprise de poursuivre adéquatement ses opérations au cours des prochains mois et des prochaines années. La haute direction a tenu à faire cette mise au point à la suite d'un reportage publié dans la presse qui alléguait que l'entreprise n'avait pas les fonds nécessaires pour honorer les futurs voyages déjà payés par les consommateurs. Et là, juste pour faire court, là, ce reportage est fondé sur une mauvaise interprétation des états financiers.
Mais quand tu as besoin de 11 millions de liquidités puis que tu dis dedans que ça va être basé sur les ventes futures, ça veut dire quand même que tu as généré au départ une création de valeur par brûler des liquidités et que pour te refaire, il faut que tu prennes des liquidités. Maintenant, il peut y avoir des investissements étrangers, extérieurs ou québécois qui viennent renflouer ça en se disant le modèle d'affaires à long terme est bon, mais le fait est simplement de dire si les états financiers disent qu'ils ont besoin de 11 millions, on va avoir besoin de 11 millions quelque part. Et si ça vient de la vente future, ça veut dire que ce sont les ventes futures qui vont générer des liquidités. C'est juste financier. Reste à voir c'est quoi leur plan, comment ils vont faire ça, parce que c'est basé sur le volume. Hein. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
C'est le volume. C'est des petites marges avec beaucoup de ventes de billets. Et là, évidemment, est-ce que la réputation est assez entachée à cause du reportage d'hier pour générer des problèmes futurs à l'entreprise?
C'est ce qu'on va voir. On m'a dit que beaucoup de clients inquiets. Moi, je reçois des courriels de gens qui ont acheté, qui ont payé au complet, puis qui se demandent s'ils vont partir. Là, officiellement, on dit oui, là. Mais ça ne serait pas la première fois qu'un communiqué soit contredit par une décision dans les trois semaines.
C'est sûr que Paul,
mais t'as-tu goût d'aller acheter un voyage là, sincèrement?
Ben moi non là, pour mes métiers en même temps, je vais pas faire de diffamation.
Non, mais c'est pas
moi,
ça.
Moi personnellement, ça me fait peur là.
Il y a une insécurité.
Exactement.
Dans ce dossier-là.
Puis pour sauver 150$, 200$, je ferais tout ça. C'est une autre question. T'sais.
Le CELI qui est une arme fiscale sous-estimée.
Oui, Paul, là, ça commence à être important d'en parler vraiment là. Après de parler des bons sentiments. Écoute. La pré-retraite, par exemple. Il y a des gens qui me parlent de la pré-retraite qui disent « Moi, je vais arrêter de travailler à 50 ans. Mon conjoint ou ma conjointe a une entreprise. Tout ça. Moi, je vais arrêter de travailler. J'ai assez de liquidité. J'ai assez de... » Et là, on commence à parler de CELI pré-RE. Puis là, je dis ben, « C'est une bonne idée, en fait. T'sais, les gens retirent leur RE pendant les années de pré-retraite. Donc, avant de recevoir la sécurité de vieillesse, avant de recevoir la régie des rentes du Québec, ils retirent leur RE. Et quand ils n'ont pas besoin de la totalité de la somme, transfèrent l'argent dans le CELI pour... Donc, tu retires ton argent avec un faible taux d'impôt parce que tu ne retires pas tant que ça. Tu mets ça dans ton CELI que tu n'avais pas pleinement cotisé. Et là, ton CELI devient une façon d'avoir eu le retour de REER, de retour d'impôt, et après ça, de le réinvestir dans le CELI de façon à réduire l'impôt. Et là, ce qui s'en vient dans les prochaines années, Paul, pour la première fois en 2009, là, on avait 5 000$ de CELI. C'était cute dans le temps, tu sais, Stephen Harper avec son 5 000$ de CELI à libre d'impôt, on était bien content. Mais là, avec les années, ça s'est cumulé. Là, on est rendu à un plafond cumulatif de 57 500$. Puis dans 10 ans, si on continue avec 5 500$ par année, sans l'indexer, on va être rendu à 112 500$. Ça veut dire que quelqu'un qui va vendre sa maison, qui dans 10 ans, va avoir 20 ans de CELI, si tu veux, ou 19-20 ans de CELI, mais il va se retrouver avec une grande capacité de prendre le gain de la maison, de mettre 112 000 de la maison s'il n'a jamais cotisé à son CELI dans le CELI, et tout le gain futur sera pas imposable. Le CELI, Paul, c'est quand même une arme d'évitement fiscal légalisée pour beaucoup de monde. Et on va aller plus loin. Là, le monde dit « Oui, mais les REER. » Ben, les REER et le CELI, c'est un balancement. Dans le fond, le CELI, l'avantage par rapport au REER, c'est qu'il n'y a pas d'impôt quand tu tires. Non, tu n'as pas de remboursement au début, mais tu n'as pas d'impôt à la fin. Donc, même si sur 25 ans, ça donne à peu près la même chose, toute chose étant égale par ailleurs, parce que t'as réinvesti ton remboursement de REER potentiellement. Au net, le CELI, ce qui permet, c'est de faire de la spéculation dedans et générer beaucoup de gains à l'abri de l'impôt. Donc, dans le futur, on va se retrouver avec beaucoup de gens qui vont avoir un CELI toute leur vie, qui vont avoir beaucoup d'argent dedans et qui vont pouvoir le transférer au conjoint sans impact fiscal, contrairement au REER, quand on meurt, il y a évidemment un gain, ben pas au conjoint, mais aux enfants. Le CELI, lui, quand tu transfères aux enfants, ton gain, il se matérialise juste dans les mains des enfants. C'est-à-dire que tu matérialises au décès, t'as pas d'impôt, et ce sont tes enfants qui sont imposés sur les gains futurs. Mais ils peuvent aussi, eux, le mettre dans leur CELI ou dans leur REER. Donc, le CELI permet de rouler de génération en génération du cash, Paul. Mettons, je meurs avec 100 000 dans mon CELI, je le transfère à ma conjointe, qui elle a pas d'impôt pour tout de suite. Elle meurt, elle le transfère à mes deux enfants. Si eux, ils ont un plafond de CELI à 19 ans, 30 ans, 20 ans, tu sais, commencent à avoir un plafond de CELI, peuvent en transférer une partie, peuvent en mettre une partie dans leur REER. Donc, le CELI, c'est un outil ultime de roulement fiscal très intéressant.
Et pas encore assez utilisé, j'ai compris.
Ouais. Merci. Faites attention, faut pas oublier qu'au décès, on peut transférer au conjoint sans impact fiscal et que les enfants, ce sera le gain futur qui s'impose à bien le dire.
Merci, monsieur. Merci. Salut. Bonne journée. Il est 7h23.